On est de retour dans l'Afterwork, dans la chronique des 5 minutes d'histoire. On parle montagne, on parle préservation et niveau réintroduction, il y a aussi le grand coq de Bruyères.
Voilà, ce grand coq dont vous pouvez admirer une représentation sur le rond-point du Leclerc à Bruyères. Alors je ne sais pas si elle est toujours là, mais il y a quelques mois de ça, elle est encore là. Je vous avoue que... Pourtant, j'y passe souvent, mais j'ai pas fait gaffe. Mais enfin, voilà, donc ce grand coq de Bruyères, qui porte un autre nom, hein, qui est plus connu ici, qui est le grand tétras. Alors, quelques chiffres tout de suite, hein, histoire qu'on comprenne bien qu'il y a un vrai danger. On parle de 1100 spécimens dans le massif Vosgien en 1939. Aujourd'hui, on parle plus, alors, dans les années 90, que de 170 spécimens. 95 en 1999 et 50 en 2002. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin.
À cause de quoi ?
Alors, c'est très particulier. C'est en fait tout simplement que en hiver, cet animal va rentrer dans ce qu'on appelle l'hivernation et non pas l'hibernation, c'est-à-dire il va ralentir son rythme, ses activités et il va donc freiner son apport en nutriments, notamment du fait d'une raison très simple qui est qu'il y a moins de nourriture. Donc il va notamment manger essentiellement
il mange des petits vers
c'est vraiment les l'écorce de la pomme de pin, des choses comme ça. Voilà.
D'accord.
Et donc il va vraiment essayer de survivre avec ça, quoi, hein, avec cet hiver qui est rigoureux. Mais s'il est dérangé, notamment par des randonneurs, etc., il va dépenser une énergie considérable pour s'enfuir. Le calcul est donc assez simple. Il dépense plus d'énergie en essayant de s'enfuir par rapport à la nourriture qu'il consomme. Donc ben, concrètement, au bout de 3, 4, 5 envols pour s'enfuir, ben, il va mourir d'épuisement en cas de dérangement prolongé.
Ah bah, tu vois, j'étais sûre que c'était l'homme qui voulait le manger.
Ah ben, il y a eu de ça aussi, pas se mentir. Hein. Ouais. C'est comme pour le chamois d'ailleurs. Hein. Le chamois actuellement fait l'objet d'un plan de chasse. Il y en a qui ont, je pense, déjà mangé du chamois dans les Vosges. Enfin moi, j'ai du mal à le comprendre. Mais bon, voilà. C'est comme ça.
Et enfin, je pense que vous l'attendez tous parce que c'est un des sujets les plus actuels. On parle du loup et du lynx.
Oui, ces deux animaux massifs. Hein. Alors, un préalable, avant d'en parler, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, il ne s'agit pas du tout de critiquer l'un ou l'autre comportement, l'une ou l'autre réaction, posture, discours, etc. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, je ne vais pas ici faire de polémique. Ce qu'il faut, c'est penser à mon sens durable. Le lynx, par exemple, a eu des essais de réintroduction en 83 dans le massif des Vosges. Cela a sans doute pas suffi, hein, je pense, parce qu'il faut se l'avouer, notamment en raison des tirs de braconnage, parce qu'il ne fait pas l'objet, bien entendu, de plans de chasse, donc on parle de braconnage, eh bien l'espèce a diminué. J'avoue être très intrigué par cette espèce de gros matou, hein, ce gros chat, si j'ose dire, qui est extrêmement impressionnant. Eh bien, le problème, en fait, c'est le même que celui du loup. J'ai envie de dire, plutôt que d'être pro ou anti, il faut avant tout réfléchir à une relation durable homme-animal. Et je discutais avec une personne récemment, hein, de l'ONCFS, il y a quelques mois, et on avait vraiment mis en avant cette évidence que, selon laquelle on peut aider le monde agricole, par exemple, puisque c'est essentiellement le monde agricole qui est concerné par le loup ou le lynx, à composer avec la présence de ces deux animaux, dans une mesure, par exemple, de reconversion. Alors, j'émets une hypothèse, une suggestion. Pourquoi est-ce qu'on ne verserait pas une aide aux agriculteurs pour qu'ils adaptent leur mode de fonctionnement au lynx et au loup? Je pose la question, hein, c'est vraiment, s'il y a peut-être quelque chose à faire. Dédommager en cas de mort de bétail, de chèvres, de vaches, de moutons, c'est très bien, j'en doute pas, mais aider l'éleveur à reconsidérer son métier, le transformer à nouveau, le faire évoluer, je dis pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Ces animaux ont quand même de grands atouts, hein, notamment en ce qui concerne la régulation des populations de cervidés, la population des rongeurs et des autres prédateurs, hein, qui vont pas faire que du bien aux cultures vivrières. Donc il y a vraiment quand même des atouts, outre en plus la richesse de la biodiversité. Et franchement, à titre personnel, je suis convaincu que le vivre ensemble, cette espèce de voie du milieu, peut apporter énormément. Il ne s'agit pas de mettre sous cloche la nature, on n'est pas dans un parc naturel national, mais il s'agit vraiment de réapprendre à vivre avec le loup qui est depuis 2011 dans les Vosges.
Donc ce que tu dis finalement, ta petite hypothèse, ce serait que donc, les personnes qui sont pro-loup, elles ont un peu des discours qui peuvent être un peu fâcheux pour les agriculteurs, du genre ben, vous avez qu'à faire plus de grillage. Les agriculteurs y répondent en disant on en a pas forcément les moyens. Donc, c'est effectivement ça. L'État pourrait donner des subventions pour qu'ils puissent augmenter un peu les structures. Quoi.
On est d'accord. Bah, c'est le principe du développement durable. C'est-à-dire, le concept du développement durable, c'est vraiment les trois piliers environnement, social et économique. Alors, l'aspect économique, bien sûr, c'est l'agriculture ici. Hein, l'agriculteur a besoin de vivre de sa production. L'aspect social, c'est l'ensemble des acteurs. Et puis, l'aspect environnement, c'est la richesse de la biodiversité. Il faut vraiment trouver une voie durable entre ces trois éléments-là. Parce que là, actuellement, les solutions qui sont proposées ne sont pas des solutions. Enfin, autoriser des tirs de captage de loups... Pour moi, c'est pas une solution. Déjà, il est protégé au niveau européen, donc déjà, on fait une entorse au règlement. En plus de ça, on règle pas le problème des agriculteurs qui ont besoin de vivre quand même de leur production. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire entre les deux. Et je pense qu'une solution serait d'aider l'agriculteur à repenser son métier. On repense tous notre métier au fur et à mesure des années. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'enseignant, je n'enseigne pas comme mes collègues qui ont commencé il y a 30 ans. Et c'est normal, j'ai envie de dire, les salles de classe évoluent, les publics évoluent, la manière de faire cours évolue, et c'est normal. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, et il faut réapprendre, il faut modifier, et puis c'est peut-être ça aussi la clé de la survie de l'homme, c'est savoir s'adapter à son milieu, quoi, tout simplement.
Je propose de marquer une petite pause, et puis tu nous diras de quoi on va parler la semaine prochaine.
Entendu.